Vous êtes sur RTL.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, on va vous démontrer qu'il ne suffit pas d'avoir des coucougnettes pour être un bon joueur de foot. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine de l'actualité sur RTL. Et ce dont nous allons vous parler ce soir est un truc de bonne femme.
On peut être pour ou contre le football féminin, c'est une question d'appréciation. Je dirais presque, en ce qui me concerne, c'est une question d'esthétisme. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le phénomène. Il y a de plus en plus de licenciés pour le football féminin.
D'aucuns les disent pas assez fortes physiquement pour courir après un ballon rond, pas assez rapides pour remonter le terrain balle au pied et pas assez costaudes pour protéger les cages. Décidément, être une fille en crampons, ça dérange. Pourtant, les performances sont là et la Coupe du Monde approche. Et puis, moi je dis ça, je dis rien, mais la plus grande pleureuse des terrains s'appelle Neymar, non ? À bon entendeur, salut !
RTL, Jour J.
Et à la tête de cette émission de Bonne Femme, votre serviteuse et mon invitée en est une autre, Siani Dalma, bonsoir.
Bonsoir Flavie, bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans Jour J, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter à la rubrique football, masculin et féminin. Hein, pour vous, il n'y a pas forcément de différence à l'équipe. Et puis vous êtes chroniqueuse également à l'équipe du soir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je suis ravie de parler de foot ce soir. Notre Jour J, c'est le 20 juillet prochain. C'est le début de la Coupe du Monde. Alors on se réjouit, on est super pressé de la regarder. Sauf que...
Avant toute chose, une inquiétude ce soir. Est-ce qu'on va pouvoir suivre la Coupe du Monde de foot des filles féminines à la télévision cet été ? Le président de la FIFA pousse un coup de gueule. Il menace de ne pas diffuser l'épreuve dans les 5 grandes nations européennes du ballon rond.
Voilà, alors la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne n'ont pas de diffuseur. En fait, aucun accord n'a été trouvé. Comment vous expliquez ça, Siani ?
Tout simplement parce que les dates de la Coupe du Monde, donc du 20 juillet au 20 août, ne sont pas des dates qui conviennent aux grandes chaînes françaises, mais aussi européennes. Il faut savoir qu'en termes de publicité, c'est une période assez creuse. Et en plus, il s'agit de diffuser du sport au féminin. Donc je pense que les diffuseurs ont un peu plus de mal à mettre la main à la poche. Mais voilà, la principale explication, c'est ça, c'est que c'est une période creuse. Les gens sont en vacances, pas forcément devant leur téléviseur, il n'y a pas forcément de rentrée d'argent au niveau des pubs. Et comme ce ne sont pas de grands philanthropes, ils hésitent à payer pour la Coupe du Monde le prix demandé par la FIFA.
Et c'est quoi le prix demandé par la FIFA ?
En tout cas, ils voudraient au moins 10 millions d'euros, ce qui avait été déboursé pour la Coupe du Monde précédente, qui semble beaucoup pour les diffuseurs actuellement. Ils ne sont pas prêts non plus à faire cet effort-là financier.
Oui, parce que vous l'avez dit, hein, la précédente édition, effectivement, elle s'était déroulée en France. Elle avait été diffusée sur TF1, sur Canal+. Il y avait eu plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Donc on peut dire quand même que c'est hyper regrettable.
Bah oui, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un public pour le football pratiqué par les femmes. Et on l'avait vu quand la compétition avait été diffusée en France, avec beaucoup, beaucoup de téléspectateurs devant les matchs des Bleus, avec un record à 12 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de les voir. Mais c'est vrai que les chaînes ne sont pas prêtes à mettre autant que pour les hommes, par exemple. En plus, sur une période où ils ne se considèrent pas gagnantes.
Et ça n'est pas juste. En tout cas, Hervé Renard, le sélectionneur, il a annoncé tout à l'heure la liste préliminaire de 26 joueuses. Nous, on a décidé de faire comme si on allait pouvoir voir la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce qu'il y a Amandine Henry qui est de retour, il y a Katoto et Cascarino qui sont blessés, et puis il y a Kera Amraoui qui n'est pas dans la liste non plus. Alors comment vous voyez les choses ?
Moi, je trouve que c'est une liste plutôt équilibrée. Je suis ravie de voir qu'Amandine Henry fait son retour en équipe de France parce que c'est clairement un point fort de cette équipe. C'était dommage qu'elle soit absente l'année dernière à l'Euro. On a des blessés de marque devant avec Delphine Cascarino qui joue à Lyon ou Marie-Antoinette Katoto qui joue au PSG. Ce sont deux très bonnes attaquantes mais qui ne seront pas là. Et Hervé Renard a choisi de les remplacer par deux petites jeunes, donc Naomi Feller qui joue au Real de Madrid et Vicky Béchaud qui joue à Lyon. Donc ce sont de sacrés paris. En ce qui concerne Kera Amraoui, il a évoqué une justification sportive. Quand on sait tout ce qui s'est passé autour d'elle ces deux dernières saisons, voilà, on n'est pas obligé de le croire, mais en tout cas, il a fait le choix de ne pas la prendre. C'est vrai qu'il y a Amandine Henry, ce sont deux profils similaires. Donc, quelque part, il y a une certaine logique sportive aussi à ce qu'elle ne soit pas là.
Alors, 26 joueuses, mais en fait, elles ne seront que 23 à la Coupe du Monde.
Tout à fait. Trois joueuses quitteront le groupe juste avant leur premier match amical, qui sera le 6 juillet en Irlande.
Voilà, ça fait tellement télé-réalité, ça fait trois joueuses vont bientôt quitter l'aventure juste avant la Coupe du Monde.
Mais en fait, c'est une période qui peut être compliquée parce qu'il peut y avoir des blessures et donc je pense qu'il a besoin, et comme il vient d'arriver, je pense qu'il a quand même besoin de voir le plus de joueuses possible. Et puis voilà, il faut faire attention, il faut prévoir s'il y a des blessures, les joueuses se seront entraînées, elles seront prêtes. C'est mieux que de rappeler une joueuse qui est en vacances et qui doit après se préparer pour venir à la Coupe du Monde.
Allez, on se retrouve dans un instant si vous le voulez bien. Vous êtes notre invité Siani Dalma, et ce soir jusqu'à 21h, on va parler de foot féminin avec vous sur l'antenne d'RTL, et ça va être passionnant. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, jour J. Flavie Flamand sur RTL, jour J.
Alors que le mondial débute dans moins de 4 mois, l'équipe de France féminine connaîtra bientôt officiellement le nom de son sélectionneur. Une femme est partie, un homme arrive.
C'est ça, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions et sauf énorme coup de théâtre, c'est Hervé Renard qui lui succédera. Les choses se précisent, il vient de démissionner de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
C'était le 29 mars dernier. Hervé Renard devient donc le sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot. Siani Dalma, vous êtes toujours notre invitée. Vous êtes grand reporter à la rubrique football masculin et féminin parce que vous traitez finalement tous les footballs. Merci d'être avec nous. Hervé Renard, il est arrivé donc le 29 mars dernier. C'était quoi son parcours? C'est la première fois qu'il s'occupe d'une équipe de foot féminine?
Oui, tout à fait. Hervé Renard, c'est un entraîneur qui a beaucoup travaillé avec les hommes. C'est un ancien joueur qui n'a pas été à très très haut niveau, mais c'est un entraîneur qui a beaucoup de succès depuis de nombreuses années. On l'a vraiment découvert quand il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie. C'était en 2012. Il a ensuite remporté la CAN une deuxième fois avec la Côte d'Ivoire en 2015. Sur le continent africain, c'est un dieu, hein, vraiment, ouais. Du football. Il est très respecté. Il a fait un petit passage aussi à Sochaux. C'était en 2013-2014 pour la course au maintien. Et il a échoué de très peu à maintenir Sochaux en Ligue 1, mais déjà, il s'était fait un nom aussi dans le championnat de France de football. Et puis, il a entraîné aussi à Lille, en Ligue 1, en 2015. Et d'accord. Ensuite, il est reparti. Et avant d'arriver en équipe de France, il était sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
D'accord. Et il a bien réussi aussi là-bas.
Il a sans doute remporté le match le plus important de l'histoire de l'Arabie Saoudite parce qu'il a battu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. L'Argentine qui avait été sacrée championne du monde face à l'équipe de France en décembre dernier.
Donc, c'est une bonne nouvelle, l'arrivée d'Hervé Renard. Comment est-ce qu'elle allait à l'équipe à son arrivée?
Au moment où Hervé Renard récupère l'équipe de France, on peut dire qu'elle est en miettes. Les filles n'ont pas forcément le moral. Et oui, il arrive dans un contexte assez compliqué pour les Bleus.
C'était le 24 février dernier, coup de tonnerre chez les Bleus.
Et on l'a donc appris cet après-midi. Wendy Renard quitte les Bleus. La capitaine de l'équipe de France de foot souhaite prendre du recul.
Une décision qui peut surprendre, surtout à 5 mois du mondial. Et elle n'est pas la seule. Marie-Antoinette Katoto et Khadidia Toudiani la suivent. En cause, leur relation avec la sélectionneuse Corinne Diacre.
Corinne Diacre, première française, il faut le dire, a entraîné une équipe masculine pro. C'était à Clermont-Ferrand. Elle était chez les Bleus depuis 2017. Qu'est-ce qu'on lui reprochait concrètement à Corinne Diacre?
En fait, Corinne Diacre, depuis son arrivée en 2017, elle avait eu des relations assez tumultueuses avec les joueuses, à commencer par Wendy Renard, à qui elle avait enlevé le brassard dès son arrivée. Et c'est une décision qui avait été mal vécue, mais pas que par Wendy Renard, par l'ensemble du groupe, parce que c'est une joueuse qui a du charisme, qui avait un vrai poids dans cette équipe. Et pour moi, c'est là l'origine des problèmes de Corinne Diacre avec l'équipe de France, c'est que c'était pas une décision initiale qui a mis l'équipe dans de bonnes conditions.
Et c'était une décision arbitraire donc, mais elle a été motivée par quoi?
Alors on n'a jamais vraiment compris pourquoi elle lui avait enlevé le brassard. Elle a trouvé que Wendy Renard était plus performante sans le brassard, ce qui était un petit peu bizarre parce qu'elle le porte en club et qu'elle a remporté 8 Ligues des Champions avec Lyon. Elle a été championne de France à 16 reprises. Elle a gagné une dizaine de Coupes de France. Donc effectivement, on ne comprenait pas pourquoi elle tenait absolument à lui enlever le brassard et qu'elle lui a redonné finalement l'année dernière. Donc cette première décision a quand même mis l'équipe de France en dessous. Et puis, il y a les relations dont cessé de se dégrader avec les cadres de l'équipe de France, avec Amandine Henry, avec Eugénie Le Sommer, avec Sarah Boisdi, sa gardienne, qui s'est mise en retrait aussi avant l'Euro, il y a 2 ans. Donc, il y a eu des problèmes tout au long du mandat de Corinne Diacre en équipe de France. Beaucoup la trouvaient trop rigide.
Voilà,
et son management, voilà, trop rigide. Et donc, les relations se sont détériorées avec les cadres, notamment.
Et avec de vraies conséquences aussi sur les performances de l'équipe de France ?
Eh bien, bizarrement, pas forcément, parce que l'équipe de France a quand même gagné. Alors, beaucoup de matchs amicaux. Il y a eu cette Coupe du Monde en France en 2019, où elles sont éliminées en quart de finale, mais contre les Américaines, qui ont finalement gagné la compétition. Donc, c'était pas non plus une contre-performance immense. Et puis, elles ont réussi à aller en demi-finale de l'Euro, ce qui était plutôt une bonne performance sur le plan sportif. Mais les filles pensaient qu'elles n'arriveraient pas à franchir un cap avec Corinne Diacre, voilà, ou avec son staff même, parce que finalement, elles ont remis en question tout le fonctionnement de l'équipe de France et pas que Corinne Diacre.
D'accord. Avec l'arrivée d'Hervé Renard, justement, est-ce que les choses se sont apaisées parce que Wendy Renard, d'ailleurs, Wendy Renard et Hervé Renard, c'est pas du tout de la même famille.
Aucun rapport.
Que... on pourrait se dire.
Exactement. Non, ce n'est pas son papa, ce n'est pas son grand frère.
Ce n'est pas son mari.
Non plus.
Ça n'a rien à voir. Wendy Renard, elle est revenue après.
Oui, effectivement. Bah, Hervé Renard, dès qu'il a pris ses fonctions, il l'a appelée, il a échangé avec elle, il a voulu savoir ce qui avait motivé sa décision de se mettre en retrait de l'équipe de France. Il faut savoir que c'est sans doute l'une des meilleures joueuses de l'histoire du football français. Elle a un palmarès immense, mais aussi immense que son talent. Tout le monde nous l'envie, Wendy Renard, et c'était compliqué de se dire qu'on pourrait aller à la Coupe du Monde sans elle. Donc Hervé Renard, il a tout fait pour la récupérer et pour la mettre dans de bonnes conditions. Et en fait, tout de suite, en arrivant en équipe de France, il a voulu soigner les têtes avant de se concentrer sur le jeu, voilà, mettre les filles dans de bonnes conditions pour performer, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps jusqu'à la Coupe du Monde.
Alors justement, comment est-ce qu'elle l'aborde, cette Coupe du Monde ?
Bah, je pense qu'elle l'aborde quand même avec un petit peu de confiance. Elles sont demi-finalistes de l'Euro, même si elles ont perdu contre les Allemandes, mais il y a du talent dans cette équipe de France. Il manque vraiment pas grand-chose pour aller signer une performance qui compte. Et puis, ça fait longtemps que l'équipe de France est présentée comme favorite à chaque grande compétition. Et il leur fallait peut-être un coach comme Hervé Renard, qui est présenté comme un meneur d'hommes, maintenant un meneur de femmes, qui sait... motiver ses troupes, qui sait les faire se surpasser. On l'a vu avec la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais,
la Zambie qui était une modeste équipe. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus logique. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine de Lionel Messi. C'est pas n'importe quelle équipe, n'importe quelle performance. Donc effectivement, on a besoin peut-être de quelqu'un qui sait aussi amener ses joueuses à se surpasser, à aller plus loin que ce qu'elles pensent pouvoir faire.
Alors, on va se retrouver dans un instant, parce qu'on a retrouvé des archives. Siani Dalma, vous allez vous marrer avec nous. Je l'ai dit en début d'émission, c'est une émission de bonnes femmes, faite par des bonnes femmes ce soir. Et vous allez voir que les bonnes femmes, parfois, elles ont bien irrité ces messieurs. On va vous raconter l'histoire du foot féminin, parce que ça n'a pas commencé il y a 15-20 ans, bien au contraire. Dès les années 50, les femmes jouaient au foot et ça irritait ces messieurs. On se retrouve dans un instant dans la suite de Jour J.
RTL, Jour J, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit avec vous, Siani Dalma. Vous êtes grand reporter pour l'équipe. Vous êtes notre invité ce soir pour parler du foot féminin à 5 semaines du début de la Coupe du Monde. On est en 2023. Bah oui, force est de constater quand même que les choses avancent, que les joueuses sortent progressivement de l'invisibilité dans laquelle on les avait cantonnées depuis si longtemps. On a préparé cette émission sur le foot féminin en se disant, on va relater aussi l'histoire de ce foot dont on dit aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Les joueuses, il y a de la performance, il y a du jeu, il y a de la tactique et tout. Mais il fut un temps où ça irritait parce que c'était des femmes qui chaussaient des crampons et donc qui jouaient donc aux garçons. On va se faire plaisir. Je voudrais que vous écoutiez tous bien cette archive. Voici comment on parlait du foot féminin en 1955.
Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ?
C'est magnifique quand même.
Ouais.
C'est magnifique. On s'est dit que c'est terrifiant. On se dit que l'indéfrisable, ça devait être sa coiffure.
Exactement.
Voilà. Est-ce que l'autre n'était pas plus là pour aller faire le ménage ? Enfin voilà. Ça donne quand même une idée de là où d'où sont parties finalement ces femmes qui étaient des affranchies dans les années 50.
Bien sûr, mais vous savez, ça a pas tellement évolué. On entend encore des gens demander à des joueuses de foot de retourner dans leur cuisine, d'aller faire la vaisselle, ou avec des femmes qui parlent de foot. On l'entend encore beaucoup. Et d'ailleurs, on reçoit quand même des messages comme ça sur les réseaux sociaux dès qu'on ose parler de football. Donc évidemment que la situation a beaucoup évolué depuis, mais ça reste quand même un combat pour beaucoup de femmes de jouer au football, même en 2023. Moi, je m'en suis rendu compte pendant la Coupe du Monde en France.
Donc il y a 3 ans.
Il y a 4 ans, tout à fait.
2019.
Et pour les garçons, c'est naturel de jouer au football, de jouer au ballon pour les petits garçons. Et pour les filles, moi j'ai dit, en fait, c'est presque un acte militant. Parce qu'on prend une place qui ne nous est pas réservée, une place qu'on n'a pas forcément envie de nous faire. Et il y a beaucoup de femmes courageuses qui jouent au football dans des pays où ce n'est pas forcément autorisé, où ce n'est pas forcément bien vu.
Ouais,
et même pour les Américaines qui sont championnes du monde, ça a été un combat de se faire accepter à leur place, à demander des salaires similaires à ceux des garçons. Donc on a l'impression que c'est qu'un jeu, mais pour beaucoup de filles, c'est plus que ça. C'est une façon de prendre une place qui leur revienne.
Voilà, et puis de s'affranchir, effectivement.
Exactement.
Et il est donc des femmes qui, dès les années 50, avaient décidé qu'elles joueraient au foot. Racontez-nous les pionnières de Reims.
Oui.
Parce que l'équipe de Reims, c'est une équipe mythique aussi dans l'histoire
et
du
j'en
foot
j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps, là, lors du passage du trophée de la Coupe du Monde à Paris. Elles étaient réunies, elles étaient là. Et elles aiment bien raconter ce premier match en 71 où elles avaient battu les Pays-Bas. C'est le premier match officiel de l'équipe de France féminine. Et elles étaient de cette équipe de beaucoup de joueuses de Reims qui étaient les meilleures de France. Donc elles formaient l'équipe de France. Et elles ont essuyé les plâtres. Elles ont fait des matchs devant beaucoup de spectateurs. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des spectateurs qui venaient les voir. Mais c'était pas facile pour elles de jouer au football dans les années 70. Mais c'est grâce à elles si aujourd'hui, on peut avoir aussi une équipe de France performante. Parce qu'elles ont osé aussi défier l'ordre établi. Et je pense à Michèle Monnier, qui est la première capitaine de l'équipe de France et qui était là au passage du trophée et qui a été honorée. Voilà. Maintenant, mais c'est vrai qu'il y a 50 ans déjà, ça passe vite.
Ouais.
C'était un combat pour elle de jouer au football.
Et pourtant, elle faisait des performances, cette équipe de Reims, qui pouvait aussi faire pâlir certains hommes, hein, puisqu'elles ont joué en Inde, elles ont joué en URSS, elles ont été reconnues par la Fédération française de foot. Voilà, donc c'est une équipe mythique hein, dans l'histoire donc, du foot féminin. Le mari de l'une de ces joueuses de Reims était alors interviewé. Écoutez, on est en 1969, c'est savoureux.
Vous êtes mariée? Est-ce que vous n'avez pas quelques réticences? Par exemple, le dimanche matin, quand votre femme part en entraînement, est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'elle reste à s'occuper de votre intérieur?
Elle le fait le samedi.
Alors, pardon, mais en fait, ça estomaque tout le monde.
Oui.
La réponse pourrait être tout autre, quoi. Non, elle le fait le samedi. C'est-à-dire qu'en fait, le mari de cette femme qui jouait au foot, donc d'une femme féministe un peu révolutionnaire, n'avait rien à redire parce qu'elle faisait le ménage, elle s'occupait de la maison la veille de l'entraînement et pas le dimanche. Enfin, on est chez les dingues. Enfin, vous voyez, elles en avaient un tempérament, ces femmes, c'est incroyable.
Le contexte de l'époque, effectivement, c'est un contexte assez machiste et je crois vraiment que si aujourd'hui en 2023 c'est encore compliqué pour des femmes de jouer au football et d'avoir accès à des terrains de foot, à l'époque ça devait être pire encore. Il fallait avoir une vraie force de caractère pour pouvoir continuer de jouer au foot, de s'imposer. Je pense à l'équipe aussi de... Alors, c'était Juvisy à l'époque qui est devenue la section féminine du Paris FC. Là aussi, il y a des pionnières. Je pense à Annie Fortels avec qui j'ai pas mal échangé et qui m'a raconté aussi un petit peu comment elle a monté l'équipe avec sa sœur, son frère. Et pareil, avec les garçons qui ne voulaient pas leur laisser un bout de terrain. Et c'est terrible. Et ça, c'était effectivement dans les années 70-80. Et vous savez qu'il y a un très bon documentaire de Stéphanie Rock sur le club de Guingamp qui commence sur une séquence du football féminin en France, par les femmes en France. Et il y a donc les jeunes U17 qui arrivent sur le terrain. Il faut leur laisser la place. Mais ça, c'était pas en 1950 ni en 1970. C'était en 2020.
Voilà, ce qui veut tout dire sur le travail à faire.
Exactement.
Ce soir, on parle du foot féminin sur RTL. Donc, on pourrait se dire aussi que les médias ont accompagné ce changement de mentalité ou en tout cas soutenu les femmes qui faisaient du foot. On va revenir encore un petit peu en arrière. On est en 1977. On pourrait dire quand même que les choses allaient s'arranger avec le temps du côté des médias. Le magazine Stade 2. Je ne sais pas si vous avez regardé Stade 2 quand vous étiez gamine en vous disant
sûr.
Moi aussi, je voudrais être un jour journaliste sportive. Le magazine Stade 2 en 1977 se vante de son audace. Je voudrais que vous écoutiez bien. Il y a une petite note à la fin. Elle est signée Thierry Roland.
Eh bien oui, nous avons tenu le pari. On avait décidé que les reporters, les journalistes de Stade 2 étaient misogynes, je ne sais pas où, et qu'on ne voulait pas entendre parler du football féminin. Eh bien, Christine Paris se charge de nous parler de football féminin.
Mais messieurs,
fallait avoir du toupet. Hein.
Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre ?
Nous sommes pour.
Non,
moi je suis tout à fait contre.
Ah bon ?
Oui, absolument contre.
Vous êtes tout contre. Oui. Alors, faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe.
Est-ce qu'on voit les douches ?
Non, on voit pas les douches.
Voilà, donc le monsieur qui était contre le football féminin, c'était Thierry Roland. Et le monsieur qui demande si on voit les douches, c'est Thierry Roland, dans un magazine de sport, Stade 2, qui se vante de pouvoir faire avancer les choses. Et c'est marrant parce que le journaliste commence en disant « Bon, on est misogyne, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi on dit qu'on est misogyne ?» Et puis deux secondes après, on a une parfaite démonstration de sexisme et de misogynie.
Ouais, heureusement que les choses vont quand même avancer et qu'on n'en est plus là, parce que c'est assez terrible. J'ai une pensée pour notre consoeur Marianne Maco, qui a été une pionnière dans
absolument.
Son... Exactement.
Journaliste sportive.
Disparue en 2018 et qui a inspiré beaucoup de jeunes filles comme moi, qui avaient envie de devenir journaliste de sport.
Ouais.
Et qui a aussi essuyé les plâtres, pour qui ça a été très dur.
C'était pas facile pour elle.
Exactement.
Sur les plateaux,
hein. Et je fais souvent la relation entre le fait d'être une femme journaliste de sport et évidemment traiter de sport au féminin, parce qu'il n'y a pas que le football, mais le football, c'est effectivement le sport le plus exposé. Alors quand il est joué par des femmes, il a une exposition, je pense, plus importante que les autres sports. Et effectivement, ce genre de remarques était monnaie courante à l'époque. Il fallait quand même y faire face.
C'était et on facile. Avait envie de vous les faire écouter ce soir. Ça fait du bien. C'est une petite piqûre de rappel sur ce qu'il ne faut plus faire. On se retrouve dans un instant. On va entendre Gigi, qui était une joueuse de foot, qui va nous parler justement de technique et non pas de l'ambiance dans les douches du vestiaire. Voilà, au risque de déplaire à Thierry Roland. On parlera des clichés aussi qui circulent toujours sur le foot féminin. Des grandes joueuses aujourd'hui, et puis d'une certaine Marinette Pichon. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J.
RTL, Jour J.
Avec Flavie Flamand.
On peut jouer plus dans ses finesses. Ça peut être d'autant plus agréable de jouer à un football plus fin, plus technique. C'est bien plus joli que de jouer très brut et puis ça n'apporte rien.
Vous venez d'entendre Gigi, joueuse donc à Reims, qui dans les années 70 préférait donc parler de technique que gel douche. On parle du foot féminin ce soir avec notre invitée qui est Siani Dalma, qui est donc grand reporter au magazine L'Équipe. C'est assez joli Gigi ce qu'elle dit sur le foot et sur la technique. Est-ce qu'il y a, parce qu'on peut pas, on peut pas dire non plus que les femmes jouent au foot comme les hommes. Comment ça se passe?
Bah, évidemment qu'elles vont sauter moins haut, courir moins vite, avoir peut-être un peu moins de puissance, mais pour moi ça reste le même jeu avec les mêmes règles.
Absolument.
Et là-dessus, je vois pas tellement de différence. Ensuite, ça va moins vite.
Est-ce qu'elles vont apporter quelque chose? Je vous posais cette question dans le sens, ouais. Qu'est-ce qu'elles apportent au foot que l'on n'a pas vu forcément dans le jeu masculin?
Moi, ce qu'on me dit, c'est que par exemple, il y a un temps de jeu effectif plus long parce que le ballon sort moins des limites du terrain.
Voilà.
Techniquement, je pense qu'elles ont rattrapé leur retard parce que finalement, maintenant, les joueuses sont formées de plus en plus tôt. Donc là-dessus, elles n'ont pas forcément de grands déficits. Je vais en énerver certains, mais beaucoup qui regardent le foot féminin disent qu'il y a moins de simulation sur les fautes.
C'est ce que je disais en début d'émission, la pleureuse des terrains, c'est Neymar. C'est vrai.
Et c'est bon. Il y a sans doute des joueuses aussi qui simulent et machin, mais on le voit moins. On le voit moins sur le terrain. Elle se relève, je peux vous dire qu'elle se relève après avoir pris des coups, elle se relève très vite. Hein.
Ouais.
À chaque fois, je suis assez étonnée parce que les garçons, effectivement, ils ont tendance à rester au sol très très longtemps, alors que les filles, si vraiment elles n'ont pas mal, elles vont se relever après un choc. Donc, elles sont toujours très combatives. Et puis les entraîneurs disent qu'elles ont une soif d'apprendre, elles sont très à l'écoute. Et beaucoup d'entraîneurs sont ravis de passer chez les filles parce qu'il y a cette envie toujours de se nourrir de ce qu'on peut leur apprendre.
Et les égos des joueuses féminines?
Ah, elles ont de l'égo. Il faut pas croire, il y a des championnes avec beaucoup, beaucoup d'égo.
Ah oui.
Mais c'est normal quand on a un champion d'avoir de l'égo. Regardez les Américaines. Vous avez des vraies stars dans les Américaines.
Ouais.
Voilà. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de raison parce que c'est des filles qu'elles aient moins d'égo que les garçons. Et c'est très bien.
Non, mais je me disais qu'elles étaient peut-être moins sujettes en fait au. Alors c'est, vous voyez, c'est peut-être complètement cliché dans l'autre sens, hein,
ouais.
Mais peut-être moins sujettes finalement au melon, quoi.
Non, ça va arriver aussi, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas et c'est très bien.
Mais les moyens ne sont pas les mêmes.
Il y a encore
une vraie différence de moyens.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas de joueuses de foot se comporter comme des joueurs de foot.
Bah, pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes sphères économiques et les enjeux économiques sont complètement différents.
D'accord.
Mais encore une fois, j'en discutais avec une ancienne joueuse qui me disait, en fait, n'y a pas de raison qu'on leur demande d'être mieux que les garçons,
c'est
plus
vrai
que
vous
les
avez
garçons.
Raison.
Et le jour où elles gagneront autant, bah, elles auront le droit de faire les mêmes bêtises que les garçons. Il faut arrêter de leur demander toujours d'être parfaites parce que c'est des filles.
Aujourd'hui, quelles sont les grandes joueuses de foot?
Les grandes joueuses de foot, il y a beaucoup de joueuses américaines, comme Megan Rapinoe qui avait illuminé la Coupe du Monde 2019, parce qu'elle a un fort caractère, elle ne se laisse pas faire, elle avait défendu justement le droit des joueuses américaines à avoir des salaires et des primes aussi élevés que celles et ceux des joueurs américains. Il y a aussi sa compatriote Alex Morgan, qui était venue jouer à Lyon, pas forcément pour son talent, mais aussi pour l'image et la lumière qu'elle pouvait mettre sur l'Olympique Lyonnais. En France aussi, on a des stars du football comme Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, qui a été jouée aux États-Unis. On a la buteuse du PSG, Marie-Antoinette Katoto, qui est un petit peu leur Kylian Mbappé aussi, très talentueuse, très jeune. Je peux vous parler de Sam Kerr, qui est australienne et qui jouera à domicile. C'était la Coupe du Monde. Donc il y a des joueuses un peu partout. Et voilà, il faut s'intéresser au foot féminin parce qu'elles ont des grosses personnalités, des personnalités très intéressantes. Elles ont souvent la tête sur les épaules, elles sont généreuses, elles sont combatives. Enfin, c'est un bonheur de les côtoyer.
Et bien sûr, il y a...
À 27 ans, elle est devenue Marinette Pitchon. 14 buts dès sa première saison au milieu des meilleures joueuses du monde entier réunies dans le championnat américain. Une sorte d'exception française au pays de George Bush.
Marinette Pitchon. Qui est Marinette Pitchon?
Marinette Pichon, ça a été très longtemps la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle a été dépassée par Eugénie Le Sommer. Alors Marinette Pichon est à 81 buts, Eugénie Le Sommer en a 87, donc elle l'a dépassée récemment, mais je pense que c'est la première vraie star du football pratiqué par les femmes, en tout cas en France. Elle a eu la chance d'aller jouer aux États-Unis,
parce qu'à l'époque, elle a été professionnelle aux
États-Unis. Exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'elle jouait à Saint-Mémy et il n'y avait pas de salaire. Il y avait peut-être quelques défraiements, quelques primes de match. Et encore, et elle a sauté le pas, elle a traversé l'Atlantique, elle a été jouée aux États-Unis. C'est devenu une star avec une histoire magnifique. Elle a joué dans des stades pleins, acclamée par le public. Puis elle a joué en équipe de France aussi. Elle a disputé, il me semble, la première Coupe du Monde de l'équipe de France. Ça devait être en 2003, si je ne me trompe pas.
C'est donc Marinette Pitchon. Et justement, elle sera avec nous dans un instant. Elle sera en ligne depuis le Canada, justement, où elle réside. À tout de suite dans la suite de Jour J.
Flavie Flamand sur RTL, Jour J. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Vous l'avez compris, ce soir, nous nous habillons de bleu, nous vivons bleu, nous avons le cœur qui bat en bleu puisque l'on parle du football féminin à l'approche donc de la Coupe du Monde. Et on vous en parlait il y a un instant, Marinette Pichon nous rejoint, elle est en ligne avec nous pour nous dire le regard aussi qu'elle pose sur cette situation. Bonsoir Marinette.
Bonsoir Flavie.
Mes respects Marinette Pichon.
C'est très gentil.
Ben non, mais c'est formidable. Alors, il y a un truc quand même qu'on ne comprend pas, et c'est ce qu'on se disait dans ce début d'émission, c'est que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de diffuseur pour cette fameuse Coupe du Monde des Bleus?
Alors, je crois que c'est aujourd'hui une vraie problématique de positionnement, d'envie et de conviction pour qu'on puisse avoir des personnes qui se battent pour nos droits et développer une certaine forme de visibilité pour notre équipe de France et pour notre sport féminin surtout.
Bah, effectivement, est-ce que vous parlez d'un manque d'envie même de la FFF?
Oui, j'ai souvent poussé des coups de gueule au niveau de la fédération. On a en effet loupé peut-être le virage en 2019 après cette fabuleuse Coupe du Monde que la Fédé a organisée et qu'il faut saluer. Mais derrière, voilà, on n'a pas saisi l'opportunité de rebondir. Et après ces petits coups de gueule, j'ai pu échanger avec le président Philippe Diallo qui me confiait qu'une ligue professionnelle allait voir le jour en janvier 2024. Donc les choses avancent.
Alors justement, c'est ce que je me disais, c'est qu'on a quand même senti un frémissement, une évolution positive du foot féminin ces 15 dernières années. Et là, effectivement, comme un flottement. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'on peut se raccrocher aux mois qui viennent en se disant que les choses vont revenir au top.
C'est l'idée. Moi, j'ai envie de croire et d'être optimiste, surtout quand ça vient de la bouche lui-même du président. Donc j'ai envie de croire qu'enfin, on va pouvoir enclencher une vitesse supérieure et être l'égal de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne, ou encore des Américaines qui sont bien loin devant.
Bah oui, et puis vous avez fait une carrière aussi aux États-Unis. Donc on suit évidemment ce dossier de très près. Selon vous, est-ce qu'il faudrait quand même plus de dirigeants comme Jean-Michel Aulas, qui est le pionnier finalement du foot féminin?
Oui, lui accompagné de Louis Nicolin, c'est sûr que ça, ce sont des hommes qui ont œuvré et tout de suite qui ont mis des moyens sans avoir peur des résultats ou d'une éventuelle perte. Et aujourd'hui, on manque cruellement de personnes comme eux.
Et vous, ça vous intéresserait pas d'avoir une place dans les instances dirigeantes du foot?
Ben, aujourd'hui, je vis au Canada avec ma petite famille depuis 4 ans et on y est franchement très très heureux. Mais je ne refuserai, je ne suis pas fermée à l'idée de pouvoir développer mon sport parce que ça reste une de mes priorités. Puis je suis une passionnée.
Voilà, et puis c'est votre combat aussi. Hein. On le sent quand on vous écoute et on se dit qu'à un moment donné, il va falloir qu'on vous donne les rênes finalement de cette histoire pour faire avancer cette cause du foot féminin. Vous êtes vraiment la star du moment. Quand même, il y a un film de Virginie Verrier qui va sortir le 7 juin avec Garance Marillier qui est dans votre rôle. Qu'est-ce que ça fait de savoir que sa vie et sa carrière est retranscrite au cinéma?
C'est un ascenseur émotionnel de voir, même en étant préparé, déjà c'est une reconnaissance, c'est une consécration, avoir la chance d'avoir une réalisatrice productrice qui vous sollicite pour dire voilà, j'ai envie de mettre ta vie sur grand écran. Déjà j'avais du mal à le croire quand la maison First Edition m'avait approché et qu'on avait rédigé avec Fabien cette belle autobiographie. Aujourd'hui, c'est différent.
Ouais, Ne jamais rien lâcher, c'est ce fameux livre dont la nouvelle édition est sortie le 11 mai. C'est ça aussi que vous dites à toutes ces joueuses de foot féminines, on ne lâche pas, on continue à y croire, on continue à se battre, et puis surtout on fait notre sport aussi bien qu'on le fait actuellement, et c'est grâce à ça aussi qu'on parlera davantage de nous ?
Moi, je crois qu'il faut continuer à libérer la parole, libérer les envies, les convictions des uns et des autres. Et aujourd'hui, moi, je suis une porte-parole, mais je dis souvent qu'on a besoin d'autres ambassadeurs et ambassadrices pour nous porter plus haut. Mmh. Et puis, de toute façon, il y a des dossiers incontournables qui sont forcément de mettre de l'argent pour le développement et pour la réussite et pour l'épanouissement de nos talents.
Et dites-moi, votre petite fille, elle joue au foot ?
Alors, j'ai pas de petite fille, mais j'ai deux petits garçons. les deux ne jouent pas du tout au football.
D'accord, ok. Donc, en fait, il n'y a que maman qui joue au foot à la maison, quoi.
Il n'y a que maman qui joue au foot. Mon petit de 10 ans joue un peu de temps en temps à l'école et dans les buts. Mais voilà.
Et c'est pas sa
grande passion.
Le foot au Canada, c'est un sport qui est répandu ?
Le foot au Canada est un sport extrêmement répandu parce que dès le plus jeune âge, il y a un accès à la pratique, une sensibilisation sur l'importance du sport. C'est pour ça qu'on s'y sent bien et que je suis heureuse d'être directrice générale d'un club qui s'appelle La Salle Soccer et qui compte 1400 licenciés, hommes-femmes confondus. Et
c'est donc peut-être ça qu'il faut faire en France aussi, c'est initier les petites filles au foot, très tôt.
Je pense qu'il y a... Il y a quelque chose à voir entre le gouvernement et puis l'éducation nationale pour amener ce sport auprès des jeunes enfants très tôt pour que ça devienne une habitude.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Marinette Pichon. On vous souhaite plein de bonnes choses. On va suivre évidemment les Bleus pendant cette Coupe du Monde et on était très heureux d'en parler avec vous sur l'antenne d'RTL et dans Jour J qui se poursuit dans un instant. On vous embrasse. À bientôt, Marinette.
Moi aussi. Je vous embrasse. Bye, Flavie.
RTL, Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Siani Dalma, vous êtes toujours notre invitée. C'était il y a un peu plus d'une semaine à la cérémonie des trophées UNFP 2023, la grand-messe qui récompense les acteurs du foot pro français. Standing ovation pour Jean-Michel Aulas. Alors, on en parlait il y a un instant avec Marinette Pichon. Voilà un homme qui a fait avancer la cause du foot féminin. Comment?
Eh bien déjà en achetant les droits d'un club de Lyon, le FC Lyon, en 2004, et en faisant l'Olympique Lyonnais. Un club qui a remporté 16 titres de champion de France, qui a remporté 8 Ligues des Champions. C'est un record. Et en donnant les moyens aux filles d'être professionnelles. Tout simplement, à un moment où il n'y avait pas grand monde qui le faisait, hormis Louis Nicolin, qui lui est vraiment le pionnier et celui qui a fait à Montpellier, faut que je précise, mais qui a vraiment été le premier à faire confiance aux filles, à les mettre dans des conditions idéales pour travailler et pour performer. Et Jean-Michel Aulas, quand il fait quelque chose, il le fait jamais à moitié, donc il a vraiment donné les moyens à ses filles de devenir les meilleures du monde.
Alors justement, on l'écoute.
J'ai eu la chance de pouvoir animer une équipe masculine extraordinaire. Bon, on a eu le bonheur de gagner 19 trophées avec les garçons, mais beaucoup plus avec les féminines en partant de rien. Et donc, je mesure cette progression. Et aujourd'hui, quand on voit que tout le monde aspire à faire en sorte que le football féminin se développe à l'instar du football masculin, ben, je trouve que pour le football masculin, c'est aussi un honneur. Et puis pour le football féminin, c'est plein de promesses pour l'avenir.
C'est bon ça d'entendre des choses comme ça.
36 trophées avec les filles.
Incroyable. Bah oui, et puis d'ailleurs, il dit presque finalement toutes ces femmes pourraient donner des leçons à ces messieurs, c'est ça qu'il dit.
En fait, elles comme elles n'ont rien facilement finalement, je pense qu'elles mettent plus de hargne et plus de rage à aller chercher tout ce qu'elles veulent et la reconnaissance et le fait de pouvoir jouer, de pouvoir exister, de pouvoir être là. Et vraiment, il a été chercher tout le temps les meilleures joueuses du monde. Il leur a donné des moyens financiers, mais c'est tout bête. Mais il y a des équipes qui envoient leurs filles jouer à l'autre bout de la France en quart. Et ben elles, je sais que ça va pas plaire non plus. Elles avaient le droit à un avion privé parce que fallait jouer en Ligue des Champions 3 jours après. Donc il fallait récupérer. Et comme les garçons en fait, il s'est jamais dit c'est des filles, donc ce sera moins bien. Et il a eu des résultats et il a eu un retour sur investissement, on peut dire ça.
Est-ce que il faudrait plus de Jean-Michel Aulas dans le milieu du foot aujourd'hui?
Moi j'en rêve, que moi je suis persuadée que pour qu'une une équipe féminine fonctionne, il faut une vraie volonté politique, il faut que le président du club se dise je vais y aller. Alors effectivement, ça rapporte pas d'argent dans un premier temps, mais avec l'OL, elles avaient leur propre sponsor aussi, il y avait des marques qui croyaient dans les filles et qui sponsorisaient pas les garçons, qui avaient vraiment envie de s'engager auprès d'elles, et ça leur a permis aussi d'évoluer. Et moi, je suis convaincue que si on met les moyens, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne performe pas, pour qu'elle ne progresse pas. Et donc, mais il faut y croire. Il faut y croire que c'est plus compliqué, effectivement.
Est-ce qu'il y a des visages aujourd'hui dans le foot du côté des hommes là, qui sont en train de prendre conscience de ça et qui vont s'emparer de la question du foot féminin?
Est-ce qu'on sent
que les choses évoluent justement avec l'influence
de locomotive.
Jean-Michel
Aulas. Il y a Laurent Nicolin, le fils de Louis Nicolin à Montpellier, qui continue le travail aussi. Je pense à Pascal Bovis, à Fleury. Fleury qui n'a pas un club. Je crois que les garçons doivent jouer en National 2 ou National 1, donc ce n'est pas très haut niveau, mais dont les filles sont en D1, et Pascal Bovis fait aussi beaucoup. Il y a le président intérimaire Philippe Diallo aussi, qui semble vraiment croire à ce projet de football féminin. Il y a un projet qui a été lancé, un projet de développement pour le football féminin français. Donc l'idée, c'est d'en faire un championnat compétitif, attrayant, attractif aussi, pour que les meilleures joueuses du monde continuent de venir. Rattraper le retard sur l'Angleterre, quand même, qui a fait des progrès, qui remplit ses stades, qui attire les foules, dont les équipes sont très performantes, qui a gagné l'Euro. Les Anglaises, elles ont gagné l'Euro, alors que les Françaises n'ont toujours pas de titre. Donc, c'est un tout. Et il faut y croire, il faut des présidents. Alors, comme il n'y a que des hommes présidents de club, et qu'on aimerait voir des femmes aussi présidentes de club.
Je disais à Marinette Pichon qu'il fallait qu'elle revienne.
Exactement.
Et qu'elle prenne.
On aimerait bien. Bon, là, comme il n'y a que des hommes, il faut qu'il y ait des hommes qui y croient.
Exactement.
Et qui lui mettent un peu d'argent, et qui permettent aux filles de jouer dans des très, très bonnes.
Allez, avant de se dire au revoir, un pronostic pour cette Coupe du Monde.
Oui.
La question
c'est
qui
pas
tue.
Facile.
Mais oui.
C'est pas facile parce qu'en
non,
plus, l'équipe
la
de France...
La dernière fois, elles ont performé quand
mais
même.
Mais là, on a perdu à l'Euro Marie-Antoinette Katoto qui s'est blessée, qui ne sera pas de retour pour la Coupe du Monde. Et on vient de perdre une autre attaquante qui est Delphine Cascarino, qui a été opérée et qui ne pourra pas non plus jouer. Donc, on a quelques forces vives en moins. Néanmoins, j'ai envie de croire qu'elles iront dans le dernier carré. Et si ça passe, après, on peut rêver et aller en finale. Et pourquoi pas un premier titre. Mais ça va être compliqué.
Et il faut qu'on les soutienne.
Exactement. Le dernier carré, ce serait très bien. Une demi-finale, ce serait pas mal.
Eh bien, ce serait génial.
Et après, les Jeux l'année prochaine, en 2024. Et là, elle rapporte une médaille, la médaille d'or.
Eh bien, voilà. Eh bien, il faut suivre Madame Irma, Siani Dalma, justement. J'espère, j'espère
on
que c'est une bonne prophétie. En tout cas, je rappelle, Siani, que l'on vous retrouve. On retrouve votre plume dans l'équipe, mais que l'on vous retrouve également à l'équipe du soir. Voilà, c'est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Merci à vous d'être venu parler de foot sur l'antenne d'RTL.
Merci
d'avoir
reçu.
Merci.
Jour J avec Flavie Flamand.
Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouvel entretien de Jour J. Et on parlera de celle qui défie la France sur la question de l'immigration. L'italienne Giorgia Meloni, première femme à la tête du pays avec ses idées très très à droite. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la musique, Eric Jean-Jean et Bonus Track. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous embrasse et je vous dis à demain.